Bonsoir, comment allez-vous? Tu laisses ça? Mais c'est le meilleur! Quel enfant n'a jamais entendu cette exclamation quand il laissait sur le rebord de son assiette os encore bien garni, gras, blanc et visqueux, peau ramollot et autres croûtes de fromage? Quel dégoût quand le parent repiquait le déchet soigneusement écarté pour le faire manger à l'enfant au motif que c'était le meilleur! Le pire étant quelque chose que les jeunes citadins du 21e siècle ne peuvent pas connaître, la peau du lait. Le lait entier, à l'époque où c'était un pléonasme, était mis à bouillir. Se formait alors à sa surface une peau que l'adulte retirait soigneusement. Elle atterrissait dans une soucoupe où elle se plissait, séchait, jaunissait pour prendre un aspect maladie de peau, justifiant le mot de croûte. Si cette horreur était réservée pour aller dans la confection d'un plat genre gâteau, alléluia. Mais si elle était servie telle qu'elle à l'enfant, comme une merveille qui allait garantir sa croissance, alors là, il fallait avoir le cœur bien accroché pour ingurgiter ce qui ressemblait plus à un pansement usagé qu'à une quelconque merveille. Devant le peu d'entrain du petit à avaler cette compresse humide, le parent évoquait les enfants qui n'avaient rien à manger, ce qui, sans enlever le dégoût, apportait la culpabilité. J'aimerais bien savoir, maintenant que le lait n'a plus de peau, si ce gras retiré est allé nourrir les affamés du monde ou s'il est allé engraisser de déjà bien gras et gros malins de chez nous. Quoi qu'il en soit, qui se souvient qu'il y a des trucs dégoûtants qui se mangent et que même, c'est le meilleur?
Bonjour, je m'appelle Capitine et j'ai 5 ans. Je voulais savoir pourquoi en France on ne mangeait pas les chats.
Capucine vous demande pourquoi en France on ne mange pas les chats. Christophe Lavelle, vous êtes biophysicien, vous êtes chercheur au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle. Pourquoi en France on ne mange pas les chats, demande Capucine.
En fait, comme beaucoup de notre alimentation, elle est entre guillemets décidée, c'est-à-dire ce qu'on décide ou ce qu'on accepte de manger relève le plus souvent de raisons purement culturelles. C'est-à-dire que ça dépend des endroits, mais ça dépend aussi des périodes. Par exemple, actuellement, c'est vrai qu'en Asie, on consomme encore beaucoup de chats.
Ah
les
bon
Chinois en mangent beaucoup, oui.
Officiellement,
tout à fait. Les chats comme chiens, d'ailleurs. Les Japonais en mangeaient jusqu'au 19e. C'est passé de mode. Aujourd'hui, ça c'est vu d'un plus mauvais œil, le chat devenant de plus en plus un animal domestique. Et en Europe, c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'habitude de consommer du chat, mais c'est enfin, il n'y a aucune loi qui l'interdit. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement manger son chat ou manger son chien. Alors, à condition qu'il ait été tué dans le respect des règles établies par le code rural. Donc, évidemment, il faut éviter toute cruauté, il faut étourdir l'animal, etc. Donc, personne, ou en tout cas pas grand monde, se risque à ce genre de pratique. Mais on peut entendre parler comme ça de consommation épisodique de chat. Alors, notamment, évidemment, dans des conditions de disette, on sait bien que, en temps de guerre, en dernière guerre mondiale, il y a sans doute eu un pic de consommation de chat. Parce qu'une certaine manière, chat et chien, on mange ce qu'on a sous la main d'une certaine manière.
Moi, mes grands-parents me disaient qu'il n'y avait pendant la dernière guerre pas un chat dans Paris au
exactement
sens propre et au sens figuré.
Tout à fait. Donc, et on sait bien, et c'est une consommation qui, encore une fois, la seule barrière est psychologique. Le chat, il n'y a aucun problème
bon
de le consommer en tant que tel. Et alors, j'en ai jamais mangé, mais voilà, on dit toujours que ça a le goût du lapin. Mais les choses évoluent, mais même en Chine, c'est intéressant de le mentionner parce que, justement, avec cet épisode de coronavirus, il se trouve que la Chine a d'abord officiellement interdit en fait la commercialisation, la consommation d'espèces sauvages parce qu'il y a eu tout ce problème autour de la consommation de chauves-souris et de pangolins, notamment qui étaient suspectés d'avoir participé à la propagation du virus. Et derrière ça, ils ont un peu continué dans leur lancée et depuis avril 2020, il y a une loi qui a sorti les chiens et les chats de la liste des animaux consommables. Donc officiellement, normalement, aujourd'hui, la consommation de chats est interdite en Chine.
Alors, pourtant, les chats et les chiens en Chine, ce sont des élevages.
Ce sont des élevages, bien sûr, c'est pour ça que là, c'est une autre loi qui est venue après celle des animaux sauvages. Mais, d'une certaine manière, ils sentent bien qu'il y a une espèce d'opposition et de mondiale, de gens qui s'offusquent de cette consommation. Et donc, voilà, c'est un peu passé dans la continuité de cette volonté, entre guillemets, d'assainir leur alimentation. Et donc, voilà, aujourd'hui, normalement, la consommation de chiens et chats est officiellement interdite. Alors après, est-ce que ça va être suivi des faits dans la population et est-ce que cette loi va tenir sur le long terme? Il y avait déjà une interdiction de consommation des animaux sauvages suite au dernier épisode de SRAS il y a 10 ans et puis entre-temps, enfin il y a 20 ans même, et puis bon, entre-temps la loi est retombée et la consommation a repris et du coup de nouveau, paf, nouveau virus, nouvelle loi, bon, tout ça est un peu compliqué parce qu'on fait face à des consommations qui sont ancrées de manière traditionnelle, justement. Et c'est toujours compliqué de faire changer une tradition.
Christophe Lavelle a écrit Molécules, la science dans l'assiette, et c'est édité chez les ateliers d'Argol. Vous connaissez le principe des petits bateaux, des enfants nous posent des questions et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Alors ce soir, vous avez demandé, les enfants, si les papillons avaient des oreilles, si les hommes préhistoriques avaient une religion et si l'on naissait intelligent ou bien si on le devenait. Question posée au 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 10 ans et je voudrais savoir si toutes les planètes sont obligatoirement rondes. Merci de me répondre.
Bonsoir Inès, vous êtes très très nombreux les enfants à poser cette question. Est-ce que tout ce qui est dans l'espace est forcément en forme de sphère? Vous êtes Yaël Nazé, astrophysicienne à l'Université de Liège, chercheur au FNRS, également écrivain, nous parlerons de vos livres tout à l'heure. Est-ce que les planètes sont rondes, demande Inès, toutes?
Par définition, oui. Pendant des années, on n'a pas eu de définition de ce qu'était une planète. Et puis en 2006, l'Union Astronomique Internationale a décidé de faire une définition qu'on a tous votée, et voilà. Et dans cette définition, un des critères pour être une planète, c'est qu'il faut être rond.
D'accord.
Donc, je vais dire par définition. Maintenant, on peut un petit peu élargir le cadre, hein, finalement. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'objets dans l'espace qui sont ronds ? Tout simplement parce que lorsqu'on a la formation des lunes et des planètes, eh bien, on a des petits morceaux qui se mettent ensemble. Alors, au début, bah, c'est des petites poussières qui se collent un petit peu parce que, elles se rapprochent et puis, voilà, elles tiennent un peu par électricité statique, hein. Bon, et puis, il y en a de plus en plus par gravité qui s'attire et puis ça se collisionne. Alors, du coup, ça fait beaucoup d'énergie. Et quand ça devient assez gros, en fait, ça passe par une phase liquide. Et là, du coup, on se retrouve avec un cas un petit peu particulier, hein, c'est la fameuse bulle de whisky du capitaine Haddock, hein, dans sa station, hein, dans la bande dessinée. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, on a un liquide et, bon, forcément, on a la gravité qui fait tenir tout ensemble. Du coup, la seule forme possible, parce que tout s'attire les uns à côté des autres et qu'on a la concentration de masse la plus importante au cœur, la seule forme possible, c'est rond. Or, maintenant, entendons-nous. C'est rond, c'est vrai, mais bon, si on prend la Terre, par exemple, elle n'est pas parfaitement ronde. Bon, pas seulement parce qu'on a des montagnes, des volcans et puis des fosses dans les océans, mais parce qu'il y a, si on regarde, hein, globalement, il y a des petites bosses par-ci, par-là. Mais ça, c'est à cause de la formation, justement. Ben, la formation, elle n'est pas parfaite, hein, on fait ce qu'on peut, mais bon. donc, c'est presque parfaitement rond, mais pas complètement. Mais par contre, si on prend des objets plus petits, les comètes, les astéroïdes, il y en a qui ressemblent vachement à des patates. Hein.
Et, ah oui, carrément à des patates.
Ah ben, même pire, hein, c'est parfois des trucs qui sont complètement...
Ah oui, je pensais que c'était plus entre ballon de rugby et ballon de foot. Non, ça peut être carrément des formes bizarres.
Alors, le ballon de rugby, le fait que ça soit un petit peu aplati, comme ça, ça c'est à cause de la rotation. Quand vous avez un truc qui tourne, il va s'aplatir au pôle, et donc là, vous avez, forcément, si vous prenez Jupiter, il n'est pas parfaitement rond, il est bien aplati parce qu'il tourne quand même assez rapidement sur lui-même, plus que la Terre. C'est vrai que la Terre est aussi un petit peu aplatie, mais très peu. Donc, le ballon de rugby, ça peut arriver aussi simplement à cause de la rotation.
Quand vous dites, Yaël Nazé, une planète et ses lunes, les lunes, c'est quoi ? C'est les satellites ?
Les lunes, ce sont les satellites naturels, les trucs qui tournent autour. Des lunes, nous, on a une grosse lune, donc elle est bien ronde. Mais bon, si vous prenez, je sais pas moi, par exemple, les lunes de Mars ou certaines lunes de Jupiter ou de Saturne, il y en a qui ressemblent pas franchement à des beaux machins, des bols de billard. Hein, c'est des trucs, des petits morceaux un peu bizarres.
Les ouvrages de Yaël Nazé, vous pourrez trouver leurs références sur le site des Petits Bateaux. Cette semaine, le jeudi 12 mai, 300 chercheurs de par le monde ont dévoilé une photo. Oh, c'est très discret, hein, ils s'excitent beaucoup, nous on voit pas grand-chose. Mais c'est tout à fait extraordinaire quand même, puisqu'il s'agit d'un trou noir géant qui trône au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Ce trou noir s'appellerait Sagittarius A.
I lose a lot of sleep. C'était les Sparks, groupe américain fondé en 1968. Sparks, comme vous le savez, ça veut dire étincelle. Et ce titre date de 1981.
Les petits bateaux sur France Inter.
Ah, ça, c'est peut-être la question que vous avez entendue au sommaire du journal de Jérôme Cadet à 19h. Ah, je vous laisse le découvrir. La découvrir, si vous ne l'avez pas entendu.
Bonjour, je m'appelle Juliette, j'ai 12 ans. Je me demande si on est intelligent, donc si l'intelligence est innée, ou si on devient intelligent. Merci beaucoup aux spécialistes de me répondre et bon dimanche.
Merci Juliette, bon dimanche à toi aussi. Je dis merci pour cette question intelligente. Le spécialiste, c'est vous, Jean-Philippe Lachaud. Vous êtes directeur de recherche à l'INSERM en neurosciences cognitives. Vous avez écrit des livres, je ne sais pas si c'est sur l'intelligence, en tout cas c'est sur l'attention. Édité chez Canopée pour l'un, chez Odile Jacob pour l'autre. Que dites-vous à Juliette ?
Eh bien Juliette, je te dirais que l'intelligence, c'est une capacité qui dépend d'autres capacités qui peuvent s'entraîner. Alors peut-être qu'au départ, quand on est, il y a des enfants qui vont peut-être être un peu plus rapides que d'autres. Mais il y a une capacité qui est très importante pour l'intelligence et qui est la capacité de concentration. D'abord parce qu'elle permet de mieux apprendre. On apprend mieux quand on est attentif, quand on est concentré sur ce que dit la personne qui nous explique les choses. Et puis parce qu'elle permet de réfléchir. Il y a un exemple célèbre qui est celui d'Albert Einstein, donc le fameux physicien, qui faisait des expériences de pensée. L'expérience de pensée, c'est quoi? C'est que Albert s'imaginait, par exemple, être dans un ascenseur qui tombe, avec un rayon de lumière qui traverse l'ascenseur. Il se dit, qu'est-ce qui se passerait? Il commençait à réfléchir à ce genre de questions. Et on voit bien que, pour ça, ça lui demandait de fabriquer des images dans sa tête, qui étaient bien stables. S'il avait été tout le temps distrait, il n'aurait pas pu réfléchir. Donc sa capacité de concentration lui permettait comme ça vraiment de réfléchir et de résoudre des problèmes extrêmement compliqués. Donc on voit bien qu'en développant sa concentration, et ça c'est possible, on va finalement devenir plus intelligent. Donc la réponse à ta question, Juliette, c'est que on peut très bien devenir plus intelligent en développant des compétences comme la capacité de concentration.
Mais votre Einstein, Jean-Philippe Lachaud, il est quand même né malin. Il est né curieux.
Oui, la curiosité fait partie aussi de l'intelligence, tout à fait. On se pose des questions, on a envie de savoir, l'envie de savoir, tout simplement, l'envie de savoir la réponse. C'est ça qui va motiver à poursuivre son raisonnement et poursuivre sa quête jusqu'à ce qu'on ait la réponse à sa question. Donc on va être également plus intelligent quand on est curieux.
Mais vous voyez par exemple dans notre bureau au petit bateau, quand quelqu'un explique quelque chose, vous par exemple, la même explication, Marjorie va comprendre et moi je ne vais pas comprendre. Et pourtant je vais vous écouter. J'en conclus qu'elle est plus intelligente que moi.
Et oui, mais il y a plusieurs façons d'écouter. On peut écouter simplement, disons passivement comme on le fait d'habitude. On peut écouter en se concentrant pour faire quelque chose de particulier, par exemple, d'essayer de se former ces petites images dans la tête de ce que je décris. Et là, tout d'un coup, ça va s'assembler, ça va faire un petit film et on va vraiment accéder au sens de ce que dit la personne. Si vous m'expliquez comment marche une machine à laver et que je vous écoute juste comme ça, je vais pas forcément retenir. Par contre, si je me fais des images dans ma tête, faut tourner ce bouton, ensuite faut appuyer là, etc., je visualise, là, à la fin, j'aurai compris.
Visualiser.
Donc on pourra dire que je suis plus intelligent, qu'en fait, je suis pas plus intelligent, mais j'ai mieux compris la deuxième fois.
Et dernière question, et enfin, si vraiment l'une était plus intelligente que l'autre, si Marjorie est plus intelligente que Noël, c'est pas si grave.
C'est pas si grave, et puis souvent on associe intelligence et rapidité. Mais en fait, dans la vie, souvent, c'est pas si important d'être rapide, parce qu'on peut prendre son temps pour comprendre quelque chose. Si ça prend un tout petit peu plus de temps, l'essentiel, c'est de l'avoir compris à la fin.
Merci Jean-Philippe Lachaud. Puisque Jean-Philippe Lachaud évoquait Einstein, vous connaissez, je pense, surtout aux élèves, hein, qui sont là, on arrive à l'époque où vous êtes un petit peu jugé, c'est pas forcément agréable. Et Einstein avait dit, si on juge un poisson à sa capacité à grimper dans un arbre, évidemment, on ne le trouvera pas très performant.
Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 9 ans et je voudrais savoir si les hommes préhistoriques avaient une religion. Merci de me répondre. Au revoir.
Je ne sais pas comment on peut répondre à cette question, Anne-Oerf. Vous êtes archéologue, vous êtes archéométallurgiste, vous êtes historienne aussi et vous êtes professeur des universités. Vous avez écrit le dictionnaire amoureux de l'archéologie. Vous parlez
Il y a une entrée religion dans ce dictionnaire amoureux, tout à fait. Il y a une entrée religion parce que c'est une question extrêmement importante. C'est une question qui se pose pour toutes les sociétés de l'humanité et qui du coup interroge sur quand est-ce que ça apparaît, quand est-ce que ça naît. Et puis c'est une question importante, mais qui renvoie aussi l'archéologue finalement à ses découvertes. Est-ce qu'il est capable d'aller dans la tête des hommes de la préhistoire pour savoir ce qu'ils pensaient? Et est-ce qu'il croyait en quelque chose? Donc ça, c'est vraiment difficile. Donc il va, pour essayer de s'interroger sur cette question et d'avoir des éléments de réponse, il va regarder les traces matérielles qui peuvent lui indiquer, ou des gestes qui peuvent lui indiquer qu'il y a eu quelque chose. Alors on a des éléments, on se dit que par exemple, quand à partir du moment où l'homme enterre ses morts, c'est-à-dire que dès Néandertal, dès moins 50 000 en Europe, eh bien, il y a ce geste vis-à-vis des défunts. Or, si on enterre ses morts, c'est parce qu'on imagine peut-être qu'il y a quelque chose après. En tout cas, ça a une importance. C'est pas juste vivre, manger, mourir, et puis partir ailleurs. Et puis, on a aussi des éléments où on construit, on bâtit des monuments. Alors, parmi les plus vieux monuments, on a dans le sud-est de l'Anatolie ce que l'on pourrait être un premier sanctuaire, Göbekli Tepe, qui est un site qui n'a servi visiblement qu'à des pratiques religieuses chez des chasseurs-cueilleurs qui ne sont pas encore des agriculteurs. Donc là, on est vers 12 000, 10 000 avant notre ère, et on a cette réalité-là. Quand on regarde dans des paysages autour de nous, on connaît Stonehenge, on connaît les alignements de Karnak, il y a forcément une fonction rituelle, religieuse autour de ces questions-là. Et donc, par déduction, on se dit que les hommes, effectivement, de ces temps très anciens, ont passé une partie de leur énergie à construire, à accompagner les individus, et que ça s'explique parce que ils avaient un univers mental qui intégrait effectivement des croyances. La question se pose de savoir d'où on vient. Et ce, dès qu'on a conscience de soi et de l'autre, par d'où on arrive, qui nous a créés. Et donc, les sociétés d'il y a très 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 longtemps avaient effectivement des croyances en des divinités et ont donc construit des religions pour l'exprimer.
Ils se posaient en fait exactement les mêmes questions que nous, ces hommes préhistoriques, comme dit Chloé.
Alors, je ne sais pas s'ils se posaient exactement dans les mêmes termes, mais l'interrogation, effectivement, était là. C'est-à-dire que quand on voit le soleil se lever, la lune apparaître, le monde dans lequel on est, les saisons, l'autre, la mort, qui est quand même quelque chose de dramatique, la naissance, qui peut être plus joyeuse, même si on a un taux de mortalité très élevé dans ces sociétés, on cherche des explications, on a besoin de comprendre le pourquoi, le d'où ça vient, pourquoi on est là, pourquoi notre finitude. Et donc ces interrogations-là, qui sont presque d'ordre philosophique, remontent à, oui, il y a très 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 longtemps.
Anne Le Horf est archéométallurgiste et historienne. Son dictionnaire amoureux de l'archéologie que nous évoquions à l'instant est édité chez Plon.
Tout va trop vite, beaucoup trop vite. Tout ce temps qui passe et me fait peur. Je suis lent, dis-moi maman.
Miel de montagne, trop vite. Effectivement, le jeune chanteur trouvait qu'à Paris, la vie allait trop vite et c'était extrêmement désagréable. Il est allé à la campagne. Il y a un instant, Jean-Philippe Lachaud se demandait si on ne confondait pas parfois, justement, rapidité et intelligence. Et il a écrit « La magie de la concentration » et c'est édité chez Odile Jacob. Vous écoutez Les Petits Bateaux. Vous connaissez le principe de l'émission. Des enfants nous posent des questions et nous trouvons des savants pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Salomé, j'ai 6 ans et je voudrais savoir si les papillons ont des oreilles. Merci, au revoir.
Bonsoir Salomé. Léon Roger, vous êtes entomologiste, vous avez écrit entre autres « Copain des petites bêtes » chez Milan. On n'a pas envie de dire quand les poules auront des dents et les papillons des oreilles, mais peut-être, je ne sais pas.
Alors les papillons en général n'ont pas d'oreilles, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils se repèrent par la lumière ou par la couleur en regardant les congénères, en regardant les fleurs. Mais certaines espèces de papillons de nuit ont quand même des oreilles, pour une raison simple, c'est que les prédateurs essentiels de certains papillons de nuit, ce sont les chauves-souris. Et donc, ces papillons n'ont pas des oreilles au sens où on l'entend, mais ils ont un tympan, c'est-à-dire la petite membrane sensible que tu as dans l'oreille. Eh bien, cette membrane sensible, ils l'ont, eux, sur le dos. De chaque côté du dos, à la base de l'abdomen, il y a des tympans qui sont sensibles aux ultrasons émis par les chauves-souris. Alors certains papillons vont même plus loin parce qu'ils sont capables, à leur tour, d'émettre des faux ultrasons afin de perturber le sonar des chauves-souris.
Bravo Salomé.
Voilà, c'est des papillons blagueurs en fait, et donc ils savent perturber la chauve-souris. Et souvent quand on regarde, imagine Salomé...
Il brouille.
Voilà. Ouais. Si vous allumez une lumière, ou bien si vous prenez sous un lampadaire en plein été, vous voyez les papillons qui volaient, et vous avez souvent les chauves-souris qui passent autour du lampadaire, parce qu'elles sont là pour manger les papillons. Et vous avez certaines espèces de papillons qu'on appelle des noctuels, qui ont un vol tout à fait désordonné. Ils ont d'abord un vol régulier, et à l'approche de la chauve-souris, qui émet son ultrason, immédiatement ce papillon tombe en feuille morte. Il a détecté la présence de la chauve-souris et il quitte donc en quelque sorte son champ de radar. Il se laisse tomber et là, c'est parce qu'il a détecté tout simplement la chauve-souris.
Et je comprends, donc moi je croyais que c'était la chauve-souris qui était attirée par la lumière, non ?
Ah, la chauve-souris, non, elle est là uniquement parce qu'elle détecte les papillons qui sont, eux, attirés par la lumière.
Ah oui, la chauve-souris, elle est attirée par le casse-croûte et le papillon est attiré par la lumière. Et elle en mange beaucoup des papillons, la chauve-souris ?
Elle ne fait que ça, à la manière des hirondelles. En volant, elle capture un papillon, deux papillons, trois papillons et ça dure toute la nuit. Ce sont des petits animaux, les chauves-souris insectivores, à la manière de la musaraigne, qui ont donc un rythme de vie extrêmement rapide, un cœur qui bat très très vite et qui arrivent à manger leur poids en nourriture chaque nuit.
Voilà.
Donc, ils sont vraiment obligés de manger beaucoup. Parce qu'ils dépensent une énergie folle à voler. Ils sont tout petits, se refroidissent vite. Et c'est des mammifères, donc des animaux à sang chaud. Ils ont besoin de beaucoup d'énergie, donc de beaucoup d'aliments.
Alors, qu'est-ce qui mange son poids ? C'est la musaraigne ?
En général, beaucoup de petits insectivores mangent leur poids. La musaraigne peut manger son poids, les chauves-souris un petit peu moins. Mais quand même, elles sont obligées de manger sans arrêt.
Et la musaraigne mange des papillons ?
La musaraigne mange des papillons tombés à terre, mais elle mange surtout tout ce qui est petites bêtes rampantes, les limaces, les escargots, les vers de terre, beaucoup les chenilles, beaucoup les araignées. Et elles ont une tête dont les mandibules représentent la moitié du volume de la tête. Donc elles mangent, elles sont capables de grignoter des carapaces de scarabées des plus résistantes.
C'est pire qu'un pitbull, une musaraigne.
Oui, vu de près, c'est tout à fait ça, oui.
Léon Roger, que nous aimons beaucoup au Petit Bateau, a donc écrit « Copain des petites bêtes » et c'est édité chez Milan Jeunesse. Vous pouvez voir en ce moment, sur Arte TV ou simplement sur Arte en replay, « Femmes au foyer », le joli documentaire de Michel Dominici. Ce sont des témoignages écrits et filmés de femmes au foyer. Il y a quelques infos générales, mais c'est léger. D'ailleurs, rien n'est lourd dans ce film, même s'il est grave. Et c'est pour cela que je vous en parle. Il s'agit des vies de nos mères, de nos grands-mères. Ces femmes, bien loties, bien parties, la guerre de 40 est finie, elles sont jeunes, jolies, amoureuses, fiancées, elles se marient en robe blanche, font une belle fête et fondent un foyer. Nous y voilà. S'ils ne sont pas très riches, ces foyers ne reflètent pas la misère. Le propos n'est pas là. Il est dans l'enfermement. Ces femmes vivent tranquillement, en apparence du moins, sans drame ni violence. Se sont juste envolées la joie, les envies, les projets. L'accumulation des tâches ménagères et familiales ne laisse ni temps ni énergie. Le piège s'est refermé sans qu'elles comprennent. C'est très touchant d'entendre la voix extraite de journaux intimes de ces femmes au foyer qui ne s'attendaient pas à ça. Qui nous montrent à nous, qui travaillons à l'extérieur, que rester à la maison, ce n'est pas des vacances. Podcastez, mes amis, ces petits bateaux par franceinter.fr. Stéphane Combe, Florian Dorimini, Marjorie Devoucoux, Jean-Baptiste Audibert, Noël Bréham. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 19h30. À suivre Jérôme Garcin et son Masque et la Plume, consacré ce soir au cinéma.
Les petits bateaux avec Goodgo, de bons petits plats pour les petits curieux.